tourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la Terre. Il est quelle heure au Guatemala. J'ai jamais pris de fusée horaire. Toujours suivi les mêmes schémas. Car là retourne, car là retourne, retourne là, là, là.
À Radio Vélo, en direct sur CETA Radio, 22 juin, et oui, nous sommes déjà le 22 juin, mercredi.
Déjà les vacances.
Le soleil brille, Julien, sur l'été. Toulouse, il fait environ 50 degrés à l'ombre, hein, c'est ça. vu tes cuisses avoir fait du vélo aujourd'hui, hein, les premiers rayons de soleil ont fait mal, c'est ça.
Il a fait très très beau, ça fait plaisir de refaire du vélo avec du soleil, parce que jusqu'à maintenant, c'est avec la GABA, mais là, on a mis les cuisses à recourir en avant.
Ah oui, là, les jambes n'étaient plus habituées à autant de soleil, Guillaume.
Même le corps.
Guillaume n'est pas là, on salue Guillaume, on salue Mélanie, on salue Max, je suis dedans et Benjamin est à mes côtés.
Bonsoir tout le monde.
On a également Jean.
Bonsoir.
Fidèle au poste, il a amené les vieilleries, là, les vieilles histoires du Giro d'une autre époque. Il nous a amené.
C'est Philippe Bis.
Ah ouais, en fait, il nous prépare le stock pour cet été, là, pour pas s'ennuyer, s'instruire. Là, je sais pas s'il nous trouve pas assez instruit, Jean. Bref, nous allons revenir, eh bien, sur la route du Sud. On va également présenter les championnats de France à notre façon, des petits débats, des petits à côté. Vous réagissez sur le Twitter @radiovélo31. Bien entendu, et on commence cette émission comme la semaine dernière avec notre ami Nicolas avec son compte Instagram qui tient avec passion l'actu cyclisme sur Instagram. Nicolas, est-ce que tu es avec nous?
Oui, je suis avec vous et je suis très heureux d'être une seconde fois en votre compagnie.
Voilà, donc ouais, on a choisi de reconduire ton contrat, t'as vu, c'est pas quand même.
J'ai été renouvelé, je suis content. Bon. Ça veut dire que j'ai été bon.
Bon, et ça veut dire que l'actu aussi a dû te plaire. Il y avait la fin du Tour de Suisse et puis la route du Sud qui en plus nous est chère vu qu'elle est de par chez nous.
Et oui, avec le Tour de Suisse, donc j'avais commencé à vous résumer la semaine dernière avec un prologue remporté par Fabien Cancellara, des premières étapes survolées par le champion du monde Peter Sagan et la première étape de montagne mercredi dernier, elle avait été remportée par Darwin Atapuma, le Colombien. Vous allez voir que les Colombiens ont été à l'avant cette semaine. Le Colombien qui avait résisté pour 4 secondes à Warren Barguil, mais surtout l'événement ce jour-là, côté français, c'était Pierre Latour, le jeune coureur de 22 ans seulement, qui s'emparait de la tunique jaune des leaders après s'être classé 3e. Le lendemain, victoire une nouvelle fois d'un coureur échappé. C'est cette fois-ci Peter Winning qui avait déposé tous ses compagnons d'aventure dans l'ascension finale. Du côté des favoris, Wilco Kelderman s'était montré le plus fort et s'emparait du même coup de la tunique jaune de leader, Pierre Latour ayant un peu faibli ce jour-là, ayant perdu 50 secondes. Le lendemain, une arrivée au sommet d'un glacier, celui de Zolden, avec, on s'en rappelle tous, il y a un an, la victoire au sommet de cette même ascension de Thibaut Pinot. Cette fois-ci, c'est un Américain qui s'est imposé. Il est sorti à 4 km de l'arrivée du groupe des favoris et TJ Van Garderen n'a été revu par personne, pouvant lever les bras au sommet, devançant de seulement 16 secondes un certain Miguel Angel Lopez, dont on va reparler par la suite de ce Tour de Suisse, où Warren Barguil, qui lui a arrivé dans la roue du coureur colombien à 16 secondes également, s'emparait des commandes du classement général, et on en reparlera, mais il y a eu 7 leaders tout au long de ce Tour de Suisse, vraiment une course très serrée, 7 coureurs ont porté la tunique de leader, ça prouve vraiment à quel point cette course a été disputé le lendemain, un chrono décisif dans la localité de Davos, remporté par un coureur qui apprécie la Suisse. Il avait déjà remporté le prologue du Tour de Romandie il y a un mois. C'est Yannis Aguirre qui s'est montré le plus rapide, mais un homme a pris les commandes du classement général. Il a surpris beaucoup de monde en se classant deuxième de ce chrono. C'est Miguel Angel Lopez, les Colombiens, ça roule désormais, c'est une vérité. Et c'est un fait, ils ont comblé leurs lacunes dans l'effort solitaire, et il a pu, donc, grâce à cet énorme chrono qu'il a fait, prendre à la tête du classement général qu'il a conservé le lendemain, mais la dernière étape, la neuvième et dernière étape de ce Tour de Suisse a fait parler avant même son départ, puisqu'elle a été écourtée de la moitié de son parcours, en effet, suite à une décision des organisateurs qui avaient suivi la demande de quelques coureurs en raison du temps dans le premier col qui était au programme, eh bien, apparemment trop froid, eh bien, les organisateurs ont enlevé cette partie de l'étape décision qui n'a pas fait l'unanimité du côté, que ce soit des suiveurs ou des coureurs, vous en reparlerez peut-être. En tout cas, c'est bien Jarlinson Pantano, encore une fois un Colombien, qui s'est imposé, réglant le sprint, le groupe des meilleurs au classement général. Résultat des courses, victoire colombienne, j'insiste bien sur là-dessus, mais ils ont bien dominé l'actualité cycliste cette semaine. Miguel Ángel López qui devançait de 12 secondes Yoannis Aguirre. Et enfin, de 18 secondes, le Breton Warren Barguil, qu'on est très heureux de voir en progression linéaire ces dernières années.
Et bien, c'est très complet, encore une fois.
Je pensais que j'étais dans la course, tu vois, en train de revoir la course. Là. C'est très bien résumé. Ouais.
Un Tour de Suisse, donc moi c'est vrai, ce qui m'a marqué, je me suis pris au jeu à le suivre, c'est le petit Colombien d'Astana, hein, López. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réactions, Benjamin, sur ce coureur, sur le forum de nos amis de Vélo Club du Net?
Oui, c'était déjà un coureur connu l'an dernier, on attendait beaucoup de lui, il montre vraiment peut-être même un an d'avance tout son talent. Il y a également de sa façon de courir, notamment la dernière étape, une différence avec Nairo Quintana, puisque Nairo Quintana, c'est plus la course un peu épicée, entre guillemets, alors que Miguel Ángel López Moreno, pour citer Jérôme Pinot, lui, lorsqu'il s'est retrouvé un peu isolé, a attaqué pour se retrouver seul en tête sur le dernier col du Tour de Suisse. Ensuite, il s'est fait rattraper dans la descente, mais il y avait beaucoup moins de danger. Il a vraiment été très offensif.
Ouais, non, c'était très très intéressant en tout cas de voir d'un peu plus près ce coureur. Nicolas, d'autres choses marquantes?
Oui, on peut dire en tout cas, pour revenir un peu sur le Tour de Suisse, que Miguel Ángel López confirme vraiment les attentes placées en lui. C'est un coureur qui a remporté le Tour de l'Avenir et on sait que cette course signifie vraiment beaucoup de choses, tout comme Warren Barguil qui a également remporté cette course par le passé. Il avait remporté cette course en 2014 avec la sélection colombienne, ça avait beaucoup fait parler parce qu'il avait vraiment une équipe de choc. Ses victoires avaient été un peu énigmatiques. Certains n'étaient pas sûrs de son véritable potentiel. Il a bien fait taire les détracteurs sur ce Tour de Suisse et déjà l'an dernier avec notamment une victoire étape sur le Tour de Burgos. Il a vraiment une progression linéaire depuis sa signature chez Astana. Donc voilà, c'est vraiment un coureur qui confirme les attentes placées en lui et il peut aller très loin. Il a seulement 22 ans et même avec le nouveau règlement ICI, il pourrait participer au Tour de l'Avenir s'il le souhaitait. Ça prouve vraiment à quel point il est extrêmement jeune.
Ça prouve également à quel point le règlement UCI est bête, pour pas dire autrement.
Nicolas, la route du Sud, tu l'as suivie depuis là où tu es, je crois. Tu es du côté de Paris, toi, hein?
Oui, donc j'ai suivi vraiment à distance, mais j'ai suivi avec passion cette course que vous appréciez tout particulièrement, sur probablement la course préférée de Radio Vélo avec la Ronde de l'Isard. Vous avez déjà d'ailleurs eu la chance d'accueillir l'organisateur de la course la semaine dernière avec une première étape remportée par un Français. Brian Coquillard n'a pas vraiment eu de concurrence dans un sprint marqué par un virage à seulement 300 mètres de la ligne. Bessières, je sais que c'est juste à côté du studio, et bien Brian Coquillard a levé les bras devançant largement Arnaud Démare, le coureur de la FDJ, qui vraiment a eu du mal. On sait qu'il préfère quand même largement les sprints en ligne droite et vraiment on peut pleinement exprimer sa puissance. Le lendemain matin, Brian Coquillard a remis ça, toujours avec les couleurs de la Direct Energy. Il s'est imposé devançant cette fois-ci un coureur que vous avez eu l'occasion d'accueillir à plusieurs reprises. L'an dernier, un régional de l'étape, Stéphane Pouliez, qui porte à merveille les couleurs de l'armée de terre. L'après-midi qui a suivi, c'est un chrono qui a eu lieu, mais c'est bien Nairo Quintana qui s'est imposé. Il sait vraiment tout faire et on peut vraiment insister sur cela. Alors qu'on disait par le passé, c'est quand même, ça date un peu, il y a peut-être 20 ans, que les Colombiens étaient bons en montagne, mais perdaient toujours les grands tours sur les chronos. Il y a eu deux chronos cette semaine. Un sur le Tour de Suisse avec Miguel Ángel López qui a été deuxième et impressionnant, et un autre sur la Route du Sud qui a été remporté par un Colombien, Nairo Quintana, qui devance en plus un spécialiste de l'exercice en la personne de Sylvain Chavanel. Le lendemain, pour l'étape reine, courue sous une pluie très forte, des conditions assez dantesques, surtout pour le mois de juin. On n'est pas habitué à voir ça sur la Route du Sud. C'est bien un coureur de la Movistar qui s'est imposé, mais pas Nairo Quintana, son jeune coéquipier, également vainqueur du Tour de l'Avenir. C'était l'an dernier, cette fois-ci, Marc Soler, qui est sorti à seulement 2 km de l'arrivée du groupe des favoris avec l'autorisation de son leader, Nairo Quintana. Il y avait quand même deux très belles ascensions, une étape digne des étapes pyrénéennes du Tour de France, avec notamment le col du Tourmalet à gravir. Nairo Quintana s'est vu classé deuxième à seulement 4 secondes. C'est le sprint Hugues Carty. Et le dernier jour, pour un nouveau sprint, on n'attendait pas forcément, on attendait peut-être une échappée ou un coureur qui sort en costaud, c'est bien Sprint qui a décidé du vainqueur de la dernière étape de la Route du Sud. Et cette fois-ci, Arnaud Démare a eu sa vengeance devançant au sprint un coureur de la Direct Energy, mais non pas Brian Coquard qui avait abandonné la veille, mais bien le Guadeloupéen Johan Gen. Ça montre également la profondeur d'effectif de l'équipe de Jean-René Bernodeau. Johan Gen qui se classait donc deuxième, l'habituel poisson pilote de Brian Coquard. Résultat des courses au classement général, victoire colombienne, tout comme sur le Tour de Suisse. Et il devance, Nairo Quintana devance son coéquipier donc de 36 secondes, Marc Soler. Et la troisième marche du podium, elle est occupée par Nicolas Hédé, qui est donc troisième à 1,06, mais on peut mettre peut-être un petit bémol, étant donné que Hugues Carty, qui occupait cette place au matin de la dernière étape, a violemment chuté dans la dernière journée, perdant donc toute chance au classement général. On peut également noter, c'est un coureur que j'apprécie tout particulièrement, Thomas Vauclair, celui qui fête ses 37 ans aujourd'hui même, qui se classe quatrième du classement général. De très bon augure avant le Tour de France.
37 ans, Thomas Vauclair, il fait partie des vétérans du peloton français. D'ailleurs, je suis tombé sur l'affiche des anniversaires du site là que tu me mets tout le temps, là, Stabi, Benjamin, Pro Cycling Stat. Ils vont te virer de ton site là, j'aurais pas dû dire ça. J'ai vu Claudon aussi, 41 ans, ça m'a fait sourire. Et oui, Vauclair, grosse longévité quand même, hein, il fait partie des vétérans. Hein.
Ouais,
mais bon, je dis pas que cet âge est grand, hein, Julien, j'ai pas dit ça.
Non, mais c'est capitaine de route, ouais. Tant qu'il a la foi, il a l'envie de bien faire. Et tant qu'il est capable de bien faire, on le voit, quatrième de la Route du Sud, étape difficile avec ses conditions météo.
Et à Bessières, on l'a vu arriver en queue de peloton après avoir beaucoup travaillé pour Brian Coquard. Il s'est encore mis minable pour ses copains.
Exactement, comme Sylvain Chavanel. Alors c'est vrai qu'il fait que deuxième du contre-la-montre. Après, ça faisait deux jours qu'il a roulé plein pot pour Brian. Ils ont fait d'énormes travail. Donc, non, mais voilà, tant qu'il est bien encore, je pense qu'il va nous en claquer une cet été là.
Je sais pas s'il va en claquer une, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut compter sur eux pour essayer d'en claquer une.
Peut-être même dimanche,
c'est pas possible. Arrive.
Ah, voilà, c'est Championnat de France, on va en parler, hein, parce que c'est quand même une des courses qu'on attend toujours. Nicolas, on a été complet, c'est bon, tu veux rester avec nous un petit peu ou?
Ah bah ça sera avec plaisir, mais oui, on a été relativement complet sur l'actualité cycliste. Après, il y avait beaucoup de vélos cette semaine, avec des courses peut-être un peu moins renommées, comme le Sterzelem Tour. On a également eu des beaux vainqueurs, mais oui, il y a une actualité cycliste très chargée cette semaine. J'ai vraiment dû faire un condensé.
Bon, on va bien évidemment revenir sur la Route du Sud un petit peu avec tout à l'heure Guillaume de Almeida qui a couru la Route du Sud sous le maillot de Radio Populaire Boavista. On lui posera quelques questions. On aura également un autre invité de cette émission, Benjamin.
Oui, ça sera Benjamin Thomas qui est un très grand espoir français, notamment sur piste.
Notamment sur piste, on lui pose une question, le coureur de l'armée de terre, Bruno, qui nous dit sur Twitter, 37 ans, c'est jeune pour Vauclair. Oui. Bien sûr, c'est jeune.
Un petit coucou pour Bruno.
38 ans, c'est jeune aussi, il nous dit.
Si c'est même Bruno Redondo qui vient de gagner les Championnats de France Master de poursuite, si je ne me trompe pas, récemment disputé, donc on lui fait un coucou parce que lui, il a encore la poignée encore.
Et oui, tout à fait. Et puis Max également qui nous envoie un petit message, nous lancerons officiellement le hashtag de soutien pour voir Bélou officiel sur le tour. Oui, ça, apparemment, ça va se faire dans cette émission, c'est ça?
Exactement.
Bon. En tout cas, une Route du Sud avec un parcours forcément intéressant et l'étape qui était à côté de nous, à Bessières, qui s'est passée de la meilleure des façons, avec Coquard 1, Démare 2, c'est quand même
avec une échappée dès le départ.
Improbable.
Qui aurait misé sur une attaque de Quintana dès le départ. Ouais,
d'ailleurs, on disait que Chavanel avait roulé les deux premiers jours, mais Quintana, qui gagne le contre-la-montre, avait également bien roulé le premier jour, puisqu'il était accompagné de Quentin Jauregui et qu'il a fait toute l'échappée devant, en laissant Quentin prendre les points de la montagne, notamment. Et lui, ça lui a fait un entraînement. Hein. Enfin, il était 5 jambes au-dessus de tout le monde, je crois, sur cette Route du Sud. Donc, il a respecté l'épreuve, il s'est battu, il a fait le spectacle en s'échappant sur une étape qui n'était pas forcément adaptée à ses capacités. Il gagne le contre-la-montre. Sur l'étape de montagne, il gère, mais bon, il faut dire qu'avec le temps, certains pensaient qu'il pourrait attaquer dès le Tourmalet. Faire 60 tournes dans le froid tout seul.
Après, j'entendais pareil, attaquer, mais il était le leader, c'était pas l'attaquer. Lui, il avait qu'à défendre son maillot. Aujourd'hui, il était sur son terrain de prédilection, la montagne. Pourquoi le principal, c'est gagner avec une seconde. Il ne fallait pas gagner avec 10 minutes. Surtout il avait eu du temps d'avance. Moi, je ne vois pas pourquoi il a attaqué. Alors peut-être après qu'il aurait peut-être voulu se rassurer, hein, mais bon.
Il semblait facile, et puis comme ça, il offre une victoire son coéquipier. D'ailleurs, c'était amusant, Solaire qui gagne un four aussi pourri.
C'est sûr. Non, mais enfin, il était devant, Solaire, dans l'échappée de ouais, devant. Très costaud, il s'est relevé. Il a ensuite roulé énormément pour amener le jour au dernier moment. Et au dernier moment, il est parti. Et ouais, c'est voilà. Bon après, non, c'était une sacrée roue du sud en course cette année.
On verra si Quintana, c'est ce que ça donne sur le Tour de France, parce qu'on a, on voit un petit peu les compos qui tombent, notamment celle de Kim Sky qui est assez incroyable, hein, cette composition d'équipe là. Ça va être très difficile pour la concurrence. J'ai vu que Valverde se préparait pour venir encore au Tour de France.
C'était
encore un problème pour Quintana, mais bon.
On a dit je pense plus que le problème pour Quintana, c'est Quintana lui-même en fait.
Bon, pourquoi ?
En réanalysant le Tour de France 2015, on peut pas dire dans les Alpes que Valverde est quand même couru pour lui, quand il sort dans la Croix de Fer, quand il sort dans le Glandon, Valverde, il aurait pu servir plusieurs fois de point d'appui à Quintana, qui a pas voulu, qui a pas osé attaquer. Je pense que Quintana, s'il perd le Tour de France l'année dernière, il peut s'en prendre qu'à lui-même.
Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose ?
Bah, vous parlez, le monde du vélo, c'est vrai, les observateurs ont beaucoup parlé de la composition du Team Sky pour le Tour de France. C'est vrai qu'elle a été dévoilée aujourd'hui, c'est incroyable, hein, c'est une véritable armada. Mais moi, j'aimerais également attirer l'attention sur celle de la Etix Quick-Step Kiné, qui est tout autant impressionnante. Ils sont capables de gagner partout. Ils ont Marcel Kittel, l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Ils ont Julien Alaphilippe, l'un des meilleurs punchers du monde. Ils ont Tony Martin, l'un des meilleurs rouleurs du monde. Ils ont Daniel Martin, qui est capable de rivaliser avec les meilleurs en montagne. On l'a vu sur le dernier critérium du Dauphiné. Et tout ça avec vraiment d'excellents coéquipiers. Ilo Caisse, un excellent rouleur, Petr Vakoč, qu'on a vu vraiment à son aise en début de saison, notamment sur les classiques françaises. Ça veut dire qu'il apprécie beaucoup la France. Maximiliano Ricciese, qu'on a vu très en forme sur le Tour de Suisse, qui, alors qu'il est un sprinter, a même fait deuxième d'une étape de haute montagne. Les commentateurs n'osaient même pas le reconnaître tellement ça leur paraissait surréaliste qu'il soit à l'avant. Donc voilà, c'est vraiment une équipe, je trouve, tout aussi impressionnante, peut-être moins orientée vers la victoire finale. Et le maillot jaune, mais vraiment, pour moi, l'équipe la plus complète de ce Tour de France qui est tout aussi surréaliste et vraiment très complète.
Ouais, ils mettent souvent des équipes très homogènes, Etix Quick-Step, et souvent ça marche. Il y a des victoires d'étape régulièrement.
Ouais. Moins sur le classement général pour les équipes de Patrick Lefebvre, souvent.
Ouais, mais après, est-ce que c'est mieux de gagner une étape que de faire 4 ou 5 au général? C'est
quand même ça dépend ce qu'on vise. Je pense pas qu'il vise là le classement général, surtout que Dan Martin sur 3 semaines.
Il aura sûrement cette possibilité cette année, à part s'il vient chercher une étape de montagne. Bon, ça reste à voir. Non?
Pour.
Pour jouer le général,
non, c'est je pense pas vraiment pas, franchement, ça. Sinon, avec toutes les étapes de montagne qu'il y a, je pense que Dan Martin, à un moment ou à un autre, il va prendre une étape.
Ouais. Ouais, moi, je pense que c'est plus pour aller remporter une victoire d'étape. Pour moi, c'est comme ça. Hein. Et il a très bien dit, Nicolas a très bien dit. Hein. Il y a un rouleur, un puncher, il y a tout ce qu'il faut pour aller un jour ou un autre aller chercher une. Quoi.
Bon, les autres faits marquants de la semaine chez les pros, on parlera tout à l'heure un peu plus des amateurs. Les débats, là, il y a eu des débats un petit peu, là, qu'est-ce que ça raconte
sur le Tour de France et sur le Championnat de France principalement.
Ouais.
Sur le Championnat de France, on note notamment que sur le contre-la-montre, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un tel plateau.
Ouais.
Puisque généralement les coureurs de course par étapes qui roulent un peu ne font pas le contre-la-montre. Là, cette année, bon, Pinot le fait. Il y a Coppel qui est quand même troisième des championnats du monde l'an dernier. Il y a plusieurs jeunes espoirs. Vraiment, ça peut être très intéressant à suivre.
Oui.
Coppel, champion de France.
Exact.
Champion de France l'an dernier.
Oui.
Cette année ou pas, Jean?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Pinot va être ultra motivé quand même à domicile.
Non, il y en a qui.
Surtout qu'il a déjà beaucoup travaillé.
Je vais miser sur Pinot pour ma part.
Tu vas miser sur Pinot, c'est vrai qu'il a énormément progressé dans ce domaine-là, hein, Jérôme Pinot.
Jérôme Pinot.
Thibaut Pinot. Dirait le bon prénom. Dur ce soir, dur.
La chaleur.
Ouais, non, il y en a d'autres hein, qui l'ont préparé. Je vois la liste un peu de départ. Rostolan, Sicard, ce sont des coureurs qui roulent bien. Mais c'est vrai qu'un Thibaut Pinot au top, ça va être difficile. Jean, toi, c'est quoi ton avis?
Mon avis, il est là. Hein. Il n'y a pas à rajouter plus.
Tu vois Coppel, toi? Coppel devant?
Pas forcément.
Pinot?
Et ça peut être aussi
Charvanel
peut-être.
Je pense qu'il a beaucoup travaillé sur la route du Sud. Il a bien préparé, je pense, pour ce championnat de France.
Je pense que ça sera un peu long pour Charvanel. Après, c'est un avis. Hein.
Non, mais Pinot,
il y a plusieurs régionaux également hein, sur le Col de la Montre.
Ses progrès sont
notamment.
Ouais, ses progrès sont tellement impressionnants. Tony Pérez aussi sera engagé. Ouais. Nicolas, ton pronostic, toi?
Moi, c'est un peu dur de choisir, je vous avoue, entre Thibaut Pinot et Jérôme Coppel. J'avoue que moi aussi, je mettrais peut-être Chavanel un peu plus en part. Entre parenthèses, j'y crois un peu moins. Mais je pense qu'il est très dur de départager Thibaut Pinot et Jérôme Coppel parce que c'est vraiment deux excellents rouleurs. Et comme vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'aussi bons rouleurs sur le championnat de France. Et autant de suspense aussi parce que ces dernières années, on attendait presque à chaque fois Sylvain Chavanel. Jérôme Coppel avait un peu surpris tout le monde l'année dernière. Mais voilà, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un aussi beau plateau sur les championnats de France du contre-la-montre.
Ouais, on va suivre ça. D'autres débats qu'il y a eu ?
Ben, on a un peu plus décortiqué le parcours du championnat de France. Donc, il y a deux côtes sur le parcours, un parcours de 12-13 km environ. Les côtes sont sur la première partie du parcours. Par contre, c'est des côtes bien dures puisque la première fait 1,6 km à 8% de moyenne. Le pied est assez facile, 4%, 2%, et après, c'est au-dessus de 8, 9%. Et la deuxième fait 900 mètres, je crois, à 9%. Donc, avec la répétition et la longueur, ça peut faire très mal. Sinon, ce dont on a parlé, forcément, ce qui fait débattre, c'est cette décision prise un peu en catimini sur le fait d'avancer le départ de 10h40 à 9h. C'est pas forcément la décision en elle-même, parce que ça aurait été pris il y a quelques mois.
Oui, parce que l'Euro de foot, ils viennent de pas de l'inventer. Voilà, ça fait quand même quelques années qu'on sait qu'on l'organise, le truc.
La France qui finit premier de son groupe, ça pouvait être prévu à l'avance, quoi. Là, le sortir comme ça à une semaine du championnat, sans prévenir les coureurs, franchement, ça fait très amateur, je trouve.
Voilà, des réactions donc sur Twitter qu'ont suscité quelques articles, quelques petites polémiques.
J'ai vu beaucoup moi de réactions contre Nasser Bouhanni.
Contre Nasser Bouhanni, mais c'est vrai que Nasser Bouhanni donne son avis assez, j'ai envie de dire assez naturellement quoi. Et fait,
bien sûr. Mais
dit ce qu'il pense.
Les gars qui font les Ironman, qui commencent à quelle heure? À 7h du matin, ils commencent.
Hein ouais. Moi, je vais pas parler sur le fait que les coureurs vont devoir se lever tôt, tout ça. Hein. C'est plus pour certains coureurs qui peuvent venir de l'OM pour le championnat le dimanche, qui vont devoir s'adapter. Je crois que Warren Barguil en parlait justement, parce que lui...
Oui, déjà que c'est pas la région de France où il y a le plus de facilité, je pense, à y aller.
Bon, je pense qu'ils seront quand même là dans la semaine, mais c'est également... on te prévient une semaine à l'avance, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je comprends que tu puisses l'avoir ouvert.
Ouais,
c'est quand même le championnat de France, hein. Ouais. C'est une fois dans l'année.
Non, et puis
c'est
bon,
du calendrier franco-français.
Ouais.
Et là, bon, ben, c'est l'Euro de foot. Alors, enfin, c'est un truc qui est prévu depuis des années,
oui,
l'Euro.
Oui, et puis bon, je vois pas trop la concurrence. C'est par rapport au match de la France, c'est ça?
Ben, par rapport au match de la France, et également, en plus de la télé, les gens sur le parcours.
Ah,
et oui, parce que
les gens vont partir.
Et voilà, donc.
Non, mais quand même, les gens, ils veulent jusqu'à Vesoul, c'est pas pour se barrer avant l'arrivée.
Sur le débat, sur le forum, il y en avait qui disaient qu'on aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire reculer le départ, plutôt que 10h40, le faire à midi.
Ou annuler l'Euro aussi. Hein.
18h40, non, mais 18h40, comme ça, les spectateurs voient le match et ils voient la fin. Sauf que, est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de spectateurs sur le parcours?
Voilà, puis après, ça fait tard pour les cérémonies. Après, il y a les arrêtés préparatoires, c'est compliqué après, quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est pas de bol, ce genre, toi, ça te...
Si, antérieurement, les départs du championnat de France se faisaient de bonne heure.
Ouais, de bonne heure.
Eh oui,
à l'ancienne. Nicolas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On dit à très bientôt et on te retrouve sur ton compte Instagram, l'actu du cyclisme.
L'actualité, il y a actualité après, l'actualité du cyclisme, toujours ça. Pas changé avec toujours les tirets du bas à la place des espaces. J'insiste parce que sinon c'est assez dur de trouver, vu qu'il y a beaucoup de noms qui sont assez semblables pour qu'on puisse bien me trouver moi.
Bon, ça marche. On te dit à très bientôt, Nicolas. Merci.
À très vite, avec plaisir.
À très vite. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Cette Radio avec Guillaume de Almeida. Ne bougez pas.
Cette Radio. Pop. Rock. Sport.
Des 15 titres préférés des auditeurs. Votez toute la semaine sur cetaradio.fr pour faire évoluer le top.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne.
tourne. La, 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 la.
De retour en direct d'un Radio Vélo et on reste un petit peu sur la route du Sud, hein, chose promis, chose due, avec un invité qui a participé, c'est Guillaume de Almeida de l'équipe Radio Populaire Boavista. Guillaume, est-ce que tu nous entends ?
Oui, oui.
Merci d'être avec nous quelques minutes en direct dans Radio Vélo. La première question qu'on a envie de te poser, c'est comment va la récupération depuis cet enchaînement de 4 jours intenses à la route du Sud ?
Un peu de mal à récupérer parce que juste avant la route du Sud, j'avais déjà fait une course à l'étape de 3 jours, on s'est enchaîné. Et bon, ça fait que de la récup pour le championnat de France hein, maintenant. Mais bon, comme il fait beau, ça va. Il fait 30 degrés, on récupère mieux quand il fait beau que quand il fait mauvais. Quoi.
Tu es resté dans l'Hexagone du coup, tu es resté en France ?
Et oui, je suis resté et je repars après le championnat, je repars au pays.
D'accord, parce que oui, tu as deux pays, on imagine qu'on te dérange en plein match de foot en plus, c'est ça ?
Ouais, je suis devant, ouais.
En plus, il y a de la tension.
Si on l'a pas crié.
Donc, c'est vrai qu'on en avait parlé avec toi. C'est vrai qu'un petit peu partagé entre deux pays, vu que tu es parti courir donc, dans cette équipe Radio Populaire Boavista au Portugal. Mais là, tu nous as donné un indice, donc participation au championnat de France ce week-end.
Oui, je suis resté français de licence. Et je vais participer au championnat de France. Ce sera la première fois, vu qu'en amateur, je ne l'ai jamais fait. Et j'ai vu que par rapport au parcours, c'est très long et très dur. Donc ce sera une bonne expérience.
Benjamin ?
Oui, bonjour Guillaume. Là, tu parlais du soleil pour bien récupérer. Sur véloclub.net, tu disais que tu espérais le beau temps sur la route du Sud. Tu n'as pas été trop servi. Cette étape de samedi, elle a dû être terrible.
Ah ouais, c'était terrible parce que quand il pleut, moi, c'est assez rare que j'ai bonnes jambes. Moi, j'adore quand il fait 35-40. Et donc, j'ai souffert. Bon, après, le niveau, il est encore un peu trop haut pour moi sur route du Sud. Mais c'est sûr que dans le Tourmalet, j'avais les jambes tétanisées, j'avais déjà les mains gelées en montant, même pas dans la descente. Donc, c'était compliqué. Mais bon, ça, c'est toujours du positif, même si je finis loin. Toutes les courses pour moi sont du positif, vu que j'ai commencé par le vélo et que je viens de passer pro. C'est du positif, faut pas le voir en négatif.
Moi, j'imagine, Julien, tu apprécies quand même la performance de Guillaume, hein, d'avoir fini cette route du Sud, c'est une belle performance.
C'est clair, on a échangé un petit peu en arrivée à Bessières, et c'est vrai qu'il avait dit qu'il s'était... Il s'était bien senti durant tout le long de cette étape. Il y a eu un petit coup, je crois, de bordure sur le final, sur ce retour arrivé vers Bessières. Ça roulait vite. Mais tu disais, ouais, bonsoir déjà, Guillaume, tu disais que tu avais de bonnes sensations malgré que ça avait roulé vite et tu te sentais bien.
Ouais, je me sentais bien. Ouais, au début, là, les deux, trois premières bosses, là, on était tous un peu tendus, mais après, au fil des kilomètres, ça allait de mieux en mieux et c'était 200 bornes. C'était la première fois que je l'ai passé bien et sans commencer à serrer le moteur au bout de 170, parce qu'en amateur, souvent, on ne passait pas les 170. Et puis, bon, après, j'étais mal placé, tout simplement. J'ai pris un coup de bordure. Les mecs, ils font des cassures parce qu'ils se relèvent. Ça me foutait un peu de finir le peloton. Moi, j'étais mal placé, donc j'ai pris un coup de bordure. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me placer mieux dorénavant parce que chez les pros, ça pardonne pas ces erreurs-là.
Comment tu gères justement la partie récup, entraînement, préparation avec ces jours de course enchaînés par étapes? Comment, au niveau de la préparation spécifique, tu arrives à le caler tout ça?
Moi, j'ai fait vachement. Déjà, entre la course à étape au Portugal que j'avais fait, où j'avais bataillé tous les jours à Route du Sud, il y avait 3 jours et j'ai roulé 15 jours sur les 3. Et là, pareil, depuis dimanche, j'ai fait lundi, j'ai pas roulé. Là, j'ai fait 2 heures hier, j'ai roulé tranquille. Vu que j'ai pas encore le moteur pour enchaîner et m'entraîner, pour l'instant, je roule pas beaucoup entre les courses, comme ça, je suis sûr de passer, quoi.
Tu sens quand même qu'il y a évolué, enfin, je pense que oui, mais que dans une course par étape comme ça de plusieurs jours, tu sens qu'au fur et à mesure, quand même, ça monte quand même
Ma forme.
Oui.
Au début de l'année, j'étais de pire en pire quand les jours passaient. Et maintenant, ça va, je maintiens et des fois, je suis même un peu mieux le dernier jour. Des fois, ça va, surtout aussi avec le beau temps. Mais la dernière course à étape au Portugal où je jouais le général, le dernier jour, j'étais donc que la veille, donc je suis content de. Je récupère de mieux en mieux et c'est que des courses à étapes de toute façon qu'on fait chez les pros là. Donc c'est important de bien récupérer.
Justement, cette course par étapes du Portugal que Jean me souffle à côté, parle-en. Mais Jean,
oui. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu, hein, bonsoir à toi, que tu nous parles un petit peu parce que tu joues aussi un maillot et tu as gagné le maillot, je crois. Tu l'as gardé.
Non, je ne l'ai pas gardé. La première étape, en fait, j'ai fait toute. Il y a eu plusieurs échappées. Moi, j'ai fait toute la course échappée. Mmh. Et à la fin, on était échappé à deux et on s'est fait reprendre en haut des derniers GPM, donc les 5 bornes. Et puis, j'ai fait la méta volante. J'avais le maillot de méta volante, donc j'ai pris une bonification. Du coup, le soir, j'ai réussi après à finir dans le peloton. Après, on s'est fait reprendre. Du coup, j'étais quatrième au général et le lendemain, j'avais le maillot, mais j'ai essayé d'en faire une, mais ta volante, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'échappée, donc j'ai essayé de sprinter avec les meilleurs sprinters portugais, donc c'était un peu compliqué de garder le maillot.
Est-ce que déjà, par rapport à, on va dire, presque moitié saison, par rapport à ton équipe, est-ce qu'il y a déjà un premier bilan qui se reste? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que tu as déjà des échos par rapport à ça?
Ouais, ils sont contents. Après, vu que je m'étais blessé mi-mars, que j'étais tombé, que c'était un peu aussi des problèmes de placement de peloton, tout ça, maintenant que ça revient, ils sont contents. Il y a eu peut-être un moment où ils ont un peu hésité, au mois de mars, mais après, maintenant que j'ai commencé à avoir des résultats, tout ça, et que je m'entends de mieux en mieux avec les mecs de l'équipe, je pense que le DS il est content pour l'instant. Ouais.
Oui, je pense que là, t'as quand même gravi une petite marche, même grande, non? Par rapport, non?
Oui, je sens que je suis mieux que l'an dernier, oui, que j'étais amateur.
Là, par rapport à cette dernière course à étapes, hein. Pardon.
Oui, ouais. Oui, mais le premier jour là où j'ai fait toute la course devant, j'avais des jambes que j'ai jamais eues en amateur, c'est...
Oui, parce que c'est pas évident d'arriver chez les pros et
oui, puis ça roule, c'est pas pareil.
C'est pas le même topo, voilà.
C'est clair. Bon, après, quand il y a les World Tour, je sens quand même que...
Ouais, c'est une autre dimension.
Ouais, j'ai un peu de mal encore.
Ouais, ça va revenir.
En fait, ce qui me manque, moi, je pense, c'est que je suis passé de DN2 à pro et il m'aurait fallu une année en DN1 à faire les 2.2.
Il y a un palier qui manque.
Ouais, tu dois être d'accord avec moi, je pense. Oui,
tout à fait. C'est sûr que c'est que bien d'être passé, mais c'est vrai que ce palier-là, il est hyper important parce que voilà, le niveau, déjà, c'est beau ce que tu as fait, parce qu'en étant blessé, revenir, être devant, aller jouer un maillot, quel qu'il soit, déjà, c'est une fierté personnelle et je t'encourage vivement. Et puis j'espère qu'on va te revoir devant encore. Quoi.
Très beau défi. Ouais. Très beau défi et très belle aventure, en tout cas, que cette saison de Guillaume Dell'Almeida. Peut-être, Guillaume, une question par rapport à ton équipe. On ne va pas te retenir trop longtemps. Mais l'équipe Radio Popular Boavista, quelle conclusion elle a tirée de cette route du Sud, Guillaume?
Conclusion, par rapport à l'an dernier, c'est sûr que c'est moins bien, puisqu'il avait fait meilleure équipe, il y avait deux mecs dans le top 10. Mais...
Le meilleur coureur est 18e, c'est ça, Figueiredo?
Ouais. On ne peut pas comparer par rapport à l'an dernier, parce que ça change toujours. Il y avait un chrono, donc c'est sûr qu'avec les chronos, les Portugais, c'est sûr que c'est compliqué. Mais après, le bilan, je pense qu'il est plutôt positif, malgré qu'on ait fait moins bien que l'an dernier, parce qu'il y avait plutôt des jeunes coureurs, on était... plusieurs à venir de passer pro et on est déjà bien à 7. Et les autres coureurs, ils se sont bien comportés, ceux qui viennent de passer. Il y en a qui sont pas mal, des Espagnols. Donc, je pense que le bilan, il est quand même positif.
Et ouais, non, je regardais le classement. Il y a un Portugais qui est 6e, il va falloir le recruter dans l'équipe. Hein, j'ai vu Guillaume, là, Vileia, là, hein, faut le recruter.
Ah,
lui.
Oui, de la cage à Roral.
Voilà, ouais, non, c'était une petite blague.
Ah, mais pour ces championnats de France, tu te sens bien?
Ouais, je me sens bien, ouais. Après, bon, il y a 250 bornes et je n'ai jamais fait, alors...
Ouais, mais après, on sait que ça se gère différemment, 250 bornes, ça ne court pas comme un amateur, ça part plein pot, et bon, une première phase, voilà. Après, voilà, tu vas courir comme il faut et tu vas être devant.
Ouais, je vais essayer de... Si je peux prendre l'échappée, je vais la prendre, c'est sûr. Puis après, c'est que de la gestion, il faut manger, boire et... rester bien placé.
Et le mental.
Et puis voilà. Le mental, oui. Ouais. Bon, ça va être bien, ça va être une belle expérience. Je suis content
d'y aller,
ouais. Jean, avant de remercier Guillaume.
Oui, parce que après on t'attend sur le Tour du Portugal quand même, parce que le Tour du Portugal c'est quand même le top pour tous les Portugais.
Oui, c'est clair, c'est l'objectif d'abord, c'est là.
C'est le Tour de France pour.
Ah oui, c'est clair, c'est il y a un monde de fou au bord des routes,
c'est extraordinaire.
En plus, nous, on a notre leader, il a fait 5 fois sur le podium. Chaque année, il fait 2e, 3e. Donc cette année, c'est sa dernière année, il a 39 ans. Et j'espère qu'on va pouvoir, si je le fais, parce que c'est pas sûr encore, on ne sait jamais, on est 11, il y a 8 places.
D'accord.
J'espère que je vais le faire, mais j'espère vraiment le faire parce que j'ai vraiment envie de l'aider. Parce que déjà à la télé, je le regardais pour le voir à lui. Donc c'est déjà un rêve d'être avec lui dans l'équipe si je peux l'aider.
Rappelle-nous peut-être le nom de ce leader pour nos auditeurs, Guillaume.
C'est Rui Souza.
Rui Souza, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà. même pour Jean, il fallait le rappeler, c'est bien. Rui Souza, donc peut-être avec Guillaume d'Almeida sur le Tour du Portugal, mais c'est ce qu'on va te souhaiter. Ça serait en tout cas encore une belle aventure et on va suivre ça de très près. On remercie Guillaume.
J'espère de le voir dimanche derrière la télé. Là.
Et oui, même si c'est un peu de bonheur. Hein. Oui. Guillaume, toi, ça te change la vie, là, cette avancée. T'as entendu parler de la petite polémique, là, d'avancer un peu le départ par rapport à l'Eurofoot. T'as entendu parler de ça?
Mais à un moment, ils ne savaient pas s'ils allaient le raccourcir, alors j'espérais un peu.
C'était une bonne solution aussi.
Ouais. Non, moi, ça ne me dérange pas, parce qu'au contraire, on finit plus tôt.
Ouais, puis vous courez par la chaleur, s'il fait chaud.
Oui, ouais, lui, il aime bien la chaleur.
Ouais, mais quand il fait trop chaud aussi.
Ah, il a dit 35-40 degrés.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, moi, plus il fait chaud, mieux
c'est. Bon. Guillaume, on t'aura à l'œil, bien évidemment, sur la suite de tes aventures. Merci d'être passé nous faire un petit coucou dans Radio Vélo.
Ben, merci à vous.
Merci, à très bientôt Guillaume.
Ciao.
Merci. À plus tard. C'était donc Guillaume d'Almeida de Radio Popular Boavista en direct dans Radio Vélo.
C'est une vieille équipe, très sympa. Toi qui la Bible un petit peu, c'est une vieille équipe Radio Popular comme équipe portugaise.
Radio Popular Boavista, Jean en direct de Radio Vélo.
C'est une vieille équipe puisque Boavista ça a toujours été.
Boavista, oui, c'est vrai que ça a toujours été une équipe.
Ça a toujours été une équipe portugaise en cyclisme, ça date pas d'aujourd'hui. Chaque année, ils changent de sponsor et tout, mais ils sont toujours là.
Mais tu as toujours la base radio de Boavista qui était déjà auparavant.
Depuis 1997 que je suis le Tour du Portugal.
Il y a vraiment un engouement au Portugal pour ce Tour du Portugal. Oui. C'est impressionnant. Oui. À chaque fois, je sais que tu m'en parles. Et
c'est intéressant parce que c'est là où on voit certains coureurs qu'on ne voit pas dans l'année. Quoi. Et c'est intéressant de le regarder.
Il y a pas mal d'équipes françaises qui vont le faire aussi ou...
De temps en temps, c'est pareil, les équipes italiennes ou d'autres nations qui y vont, sont invitées.
Radio Popular Boavista qui au départ a été créée en 1986, hein, c'est une très ancienne structure, je fais ma petite rétro, qui évolue sur des cycles VINER, V-I-N-E-R, je sais pas si ça parlera à Guillaume bien évidemment, et qui a remporté le Tour du Portugal avec Freitas en 92 et Gomes en 93. Ça te parle, Jean?
Oui, c'est parce que je crois qu'il est commentateur.
Ouais, c'est...
Freitas?
Oui.
D'accord.
Voilà, donc vraiment, oui, c'était une bonne question, Julien. Oui, c'est une équipe historique, du coup.
C'est vrai que Boavista, maintenant, oui, mais je pensais plutôt à Radio Popular, ça ne me parlait pas trop, mais Boavista, oui, c'est vrai que c'est une des vieilles équipes portugaises.
Et c'est donc bien la même structure, je pense que c'est intéressant de le souligner.
C'est une équipe qui perdure, quoi. C'est vrai que.
C'est fait partie des.
Les damiers comme les Peugeot. Voilà. Ça a toujours été, Boavista, c'est toujours été.
Allez, on va refermer la page Boavista, on va revenir en France, on va parler un petit peu de quelque chose d'un peu plus national, l'armée de terre justement.
L'armée de terre à piste.
Avec un coureur qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est Benjamin Thomas qui est en direct avec nous. Benjamin, est-ce que tu nous entends?
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir et bienvenue en direct dans Radio Vélo. Merci de prendre quelques minutes pour être avec nous. Benjamin Thomas, justement, on a un Benjamin aussi dans l'équipe qui vient donc nous donner de ses nouvelles.
C'est ça. Ça va bien, la forme est bonne. Je suis actuellement en préparation pour les championnats de France qui disputeront ce week-end.
D'accord, championnat de France. Donc déjà avec l'armée, vous êtes sur place?
On part demain. Donc ensuite on reconnaîtra le circuit vendredi parce que samedi il est fermé pour les courses féminines et amateurs. Donc on part assez tôt, comme ça permet un peu de se retrouver tous ensemble, toute l'équipe, le staff. et puis de préparer au mieux ce rendez-vous important.
D'accord, ben je disais, on a un Benjamin dans l'émission qui est un de nos chroniqueurs, hein. Il va peut-être faire un petit gros plan pour rappeler un petit peu ton palmarès, mais avant cela, toi, Benjamin Thomas, je suis obligé de préciser du coup à l'antenne de qui on parle. Benjamin, comment on articule la saison du coup avec ces deux casquettes de route et de piste?
Bah, en fait, la saison s'articule surtout autour des gros objectifs. Donc, sur la piste, bah, c'est principalement les Coupes du Monde et les Championnats du Monde. Donc, ça va de novembre à mars. Donc, l'hiver est plutôt consacré à la piste. Et puis ensuite, la saison route reprend au mois de mars, avril, jusqu'au mois de septembre. Après, je m'accorde une petite coupure fin octobre, novembre, et pour ensuite réenchaîner sur les hivers. C'est un peu un rythme à prendre, mais c'est surtout les gros objectifs qui rythment ma carrière et mon rôle de routier ou alors de pistard.
Oui, bonsoir Benjamin. Donc tout d'abord, pour te présenter, il faut savoir que tu es champion du monde junior de course au point.
Oui, tout à fait.
Également champion d'Europe de scratch en espoir, si je me trompe pas, en 2014.
Oui, c'est ça, c'était en 2014.
Et également champion d'Europe je sais pas si c'est espoir ou pas, de course au point également.
Champion d'Europe élite, oui, champion d'Europe élite, oui.
Ouais, donc on a pu également le voir plusieurs fois à la télé sur les matchs de piste et on a quand même un champion du monde à l'antenne.
Eh oui, le tout seulement à 20 ans, Jean, oui.
Oui, bonsoir. Est-ce que ton palmarès est complet là? C'est ce que vient de dire Benjamin. Je pense qu'il en oublie là, non?
Oui. Bah, on va plutôt lui demander à notre invité quels ont été pour lui les moments les plus forts dans sa jeune carrière. Qu'est-ce qui a été le plus émotionnellement fort pour toi?
Bah, pour l'instant, ça reste quand même place de deuxième au championnat du monde cette année à l'américaine. Même si j'ai gagné trois titres internationaux en junior, espoir ou élite, le plus fort, ça reste quand même ma médaille d'argent à l'américaine derrière Bradley Wiggins et Mark Cavendish. C'était vraiment une course folle. J'étais tombé deux jours avant à la course au point. J'avais terminé quatrième de cette course au point. J'avais le moral au fond des chaussettes. Et puis j'ai fait cette fameuse course à l'américaine avec Morgan Kneski. On allait chercher la deuxième place derrière ces deux champions. Et pour moi, ça reste à ce jour mon plus beau souvenir sur un vélo et une des plus belles journées.
Et ouais, salut Benjamin. Justement, j'avais regardé l'américaine. Avec cette fameuse chute, je crois, il restait quoi, 10 tours de l'arrivée, 10 tours, non, c'est ça à peu près?
Oui, c'est ça, je suis tombé à 13 tours de l'arrivée, oui.
Et après, donc, tu tentes de partir seul, il manque quasiment rien.
Ouais, il manque demi-tour, oui.
Il manque demi-tour, ouais, pour aller chercher ce titre-là. Et quand tu tombes, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis pour arriver à remonter, à surmonter, après à repartir?
Bah, c'est très compliqué, en fait, ça se passe tellement vite. On n'a pas le temps de se voir tomber, on est déjà par terre, on se demande ce qui se passe un peu. Et puis on est tellement dans l'adrénaline que j'ai juste regardé si mon vélo pouvait rouler et puis je suis remonté de suite en piste. J'ai loupé le sprint, l'avant-dernier sprint à cause de ma chute, donc ça m'a pas permis de prendre de points. Donc j'ai réfléchi deux, trois tours et je me suis dit faut que je tente le tout pour le tout sur le dernier sprint. Si je gagne le sprint, je suis champion du monde. Si je fais rien, je terminerai quatrième, mais bon. C'était à faire et pour pas avoir de regrets. De toute façon, quand il arrive ces circonstances de course-là, on tente le tout pour le tout et puis on voit après. Mais j'ai pas eu de regrets, même si c'est une déception d'avoir terminé quatrième. L'important, c'est que j'ai tout donné et puis que ça m'a fait une belle expérience aussi. Ça m'a servi d'une bonne expérience.
C'est clair. Et quand on tombe comme ça, de vitesse quand même assez plus ou moins élevée, il n'y a pas de séquelles derrière, il n'y a pas de gros bobos quand même. C'est assez impressionnant quand même.
Ouais, c'est surtout des brûlures. On a la chance que les vélodromes soient bien propres. Il n'y a pas d'écharpe, pas trop d'écharpe sur les vélodromes neufs. Donc c'est surtout des brûlures. Et après, il y a un choc, enfin un hématome qui des fois apparaît 2-3 jours après. On a pas mal sur le coup, mais c'est vraiment la semaine après le championnat du monde, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Mais on est bien suivi, par des ostéos, des médecins. Donc j'ai pu soigner ces douleurs très vite. Et puis, non, c'est vrai que c'est toujours impressionnant une chute sur piste. On tombe entre 50 et 60 à l'heure. Donc, c'est sûr que si on faisait la même chute sur la route, on aurait, je pense, un peu plus de mal.
C'est clair.
Oui, Benjamin, je voulais savoir également, tu as 20 ans, tu es un des plus jeunes professionnels français. Est-ce que tu comptes, pour le futur de ta carrière, continuer à faire de la route et de la piste, on va dire, à égalité, ou est-ce que tu vas privilégier l'un par rapport à l'autre ?
Bah, pour l'instant, j'ai toujours fait les deux. Après, j'ai pas envie d'arrêter la piste ni d'arrêter la route. Donc, je continue un peu à jongler entre les deux disciplines. Je pense que leur complémentarité a été prouvée depuis de nombreuses années par de nombreux coureurs, quoi, que ce soit Brian Coquard qui a été vice-champion olympique, hein, et maintenant il est numéro un en Europe au nombre de victoires. Donc c'est sûr que la route et la piste sont complémentaires. Et moi, tant qu'on m'aura pas démontré le contraire, je continuerai à faire les deux. Après, je sais pas de quoi sera fait mon avenir. Peut-être que je décrocherai un contrat dans une grosse équipe française. On peut pas savoir, mais en tout cas, ma volonté, moi, c'est de continuer les deux, participer pourquoi pas aux JO sur la piste en 2020, et puis sur la route, le mieux, ça reste quand même le Tour de France. Et pour cela, il faut évoluer dans une équipe World Tour ou alors une Conti Pro française. Donc je me fixe pas de limite ni de choix sur ce sujet-là.
Les deux font autant rêver, les JO sur piste et le Tour de France sur route.
Ouais, voilà, c'est les deux choses qui me font rêver, hein. C'est sûr que je pense que c'est pour beaucoup la même chose. Après, il y a d'autres courses aussi qui me plaisent beaucoup, que ça soit, j'aime aussi les courses les Ardennaises comme Liège-Bastogne-Liège ou les grandes classiques comme Milan-San Remo, c'est des belles courses, donc voilà.
Et justement, c'est quoi ton profil de coureur sur route? Parce qu'on voit que tu fais plusieurs disciplines sur piste, mais est-ce que toi-même, tu sais ce que tu es le plus, finalement?
En fait, on a un peu l'habitude de me coller une étiquette de sprinter. On se dit, oh, il fait de la piste, il doit aller vite au sprint. En fait, je suis plus un rouleur puncher, c'est-à-dire j'aime bien les courses difficiles avec des profils usants, et puis pourquoi pas, après, si en cas d'arriver un petit groupe, je peux tirer mon épingle du jeu avec ma petite pointe de vitesse. Donc mon profil, c'est plutôt ça, ouais, un rouleur puncher.
Et quel est ton programme à venir après le championnat de France?
Le championnat de France, ensuite je partirai pour le mois de juillet sur la piste avec quelques échéances, notamment le championnat d'Europe, qui est le championnat d'Europe Espoir qui sera en Italie. Et puis après je participerai aux 6 jours de Fiorenzola, toujours sur piste. Et fin juillet, je reprendrai la route avec la Poli-Normande et le Tour de l'Ain, notamment au mois d'août.
Un beau programme, Julien. Jean, vous voulez rajouter quelque chose? C'est pas tout le monde, c'est vrai, qui a cadré le rêve.
Non,
c'est beau comme ça.
Je rebondis ce que disait tout à l'heure Benjamin en face de moi. 20 ans, donc il est pro, mais il est aussi espoir. Donc voilà, on a très peu d'espoir aujourd'hui.
Mais 20 ans, c'est vraiment très jeune.
Mais après, toutes les performances qu'il a eues, voilà, c'est assez exceptionnel, quoi. On a un sacré talent, de la région en plus.
Et oui, puisqu'il est originaire de Lavore.
Oui, il est pas très loin de chez nous. Donc, non, mais vraiment un chapeau. Et puis, je lui souhaite que ça perdure. C'est vrai que, ouais, moi, je l'ai souvent vu, à l'œuvre sur les courses. C'est vraiment un sacré puncher, quand même.
Merci beaucoup.
On a été complet, c'est bon?
Je pense, oui.
Bon, on va remercier Benjamin, puis on va lui dire à très bientôt. Radio Vélo va assurer tout ça de près.
Ouais, non, c'était bonne chance. C'est pour ce week-end. Espérons le voir devant aussi.
Ouais, merci, je vais essayer de faire au mieux, et puis pourquoi pas passer à la télé sur France 3.
Tant qu'à faire, c'est quelque chose qui t'a fait réagir. Ça aussi, on a demandé tout à l'heure à Guillaume d'Almeida, le coureur de Boavista qui avait fait la route du Sud. On lui a demandé un petit peu son avis sur ça. C'est quelque chose qui t'a fait réagir?
Le
décalage du départ pour dimanche. T'es habitué à changer d'horaire, toi?
Non, ouais, à l'armée, on est lève tôt, donc c'est le matin, ou quoi qu'il arrive, on sera levé à 6h. Sera levé à 6h dimanche matin, donc non, moi ça me pose pas de problème. Après, c'est plus sur la forme, le fait de pas consulter les coureurs qui pose un peu de problème, mais moi après ça me dérange pas de courir plus tôt.
Ah, c'est une bonne réponse, là, il m'a bien eu. merci Benjamin, et à très bientôt dans Radio Vélo.
Merci, avec plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir. C'était Benjamin Thomas, donc en direct dans Radio Vélo, très, très, très sympathique. Le garçon n'a que 20 ans, hein, Benjamin.
Mais je sais pas si on, je sais pas ses aptitudes sur le chrono.
Sur le chrono, il marche en chrono aussi.
Oui, donc je pensais faire un petit parallèle, tout petit, avec Bormann.
Oui, pas faux.
Avec Bormann, parce que je l'ai vu, moi, attentivement, sur les championnats de France.
Quand il s'en va.
Le voit à droite et à gauche.
Là, au championnat où il tombe, quand il s'en va. Alors, bon, oui, c'est vrai, c'était usant. Et cette gamelle qui a pris, peut-être, sûrement, l'a un peu marqué, sûrement, et qui se fait gratter à 500 mètres, un tour de l'arrivée. Mais quand il s'en va, il roule. Il a vraiment des attitudes de rouleur.
C'est un gros rouleur.
T'es pas venu travailler, nous, Benjamin,
ça. Je ne sais pas, on me coupe le micro.
C'est moi qui décide après tout. Hein.
Je disais que cette course a également montré son caractère, quoi, pour se relever et repartir à l'attaque. Il y en a qui seraient restés encore à terre ou qui seraient repartis, mais en se disant bon, mais ça y est, c'est foutu. Lui, il est reparti direct à l'attaque et il est tombé les armes à la main.
C'est le caractère.
Il a rien lâché, quoi.
Moi, je me suis régalé,
cette addition de poids, je me suis régalé.
Bon, Guillaume d'Almeida va être content. Le Portugal est qualifié pour les huitièmes de finale. 3-3 à la fin du match. C'est serré leur truc au foot, là. Bref, non, parlons pas de foot, ça va faire les polémiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre sous le coude, là, annoncé, Julien? On a fini les coups de fil. On a le championnat de France, on a déjà un petit peu parlé. Jean a des fiches de partout.
Oui, et... mais les fiches de partout, on en parlait du.
Jean ?
Oui, on a parlé de la route du Sud et en parallèle, il y avait quand même la montée de Coudaroc pour les cadets.
Couraduc.
Ah bon.
La montée excusez-moi. À savoir qu'on en avait parlé la semaine dernière. Ouais. Les cadets ont pu faire la montée finale de l'arrivée de la route du Sud de l'étape de samedi. Et c'est Sébastien Carr qui gagne de Limoux.
De Limoux devant Mendouz.
Devant San Mendouz de Hoche.
Et Navarro Gauthier.
Et Gauthier Navarro qui reprend, s'était blessé, il s'était fracturé le bras, donc il reprend aussi. Donc il y avait beaucoup de coureurs qui ont participé à cette montée.
Relevé les trois premiers et il s'avère que ça sera des garçons à suivre dans l'avenir.
Tout à fait.
Dans l'avenir, voilà. Et après, j'avais un.
Après, on a parlé du Tour du Savoie de Mont-Blanc, c'est ça,
où c'est ça,
Alexis Guérin a remporté la première étape, était leader. Après, ça s'est un petit peu moins bien passé, puisqu'en plus, après, il était échappé, il est tombé et il a dû abandonner. Romain Campistrou qui prend la 11e place du général, si je ne me trompe pas, derrière 12e place, derrière Lambrecht qui a gagné la Ronde de l'Isard.
Oui, on aura le récit de sa course de Romain Campistrou sur Vélo Club d'ici quelques jours, pour ceux que ça intéresse. Voilà, et de Flavien Morellet et d'Olivier Lecourt de Bio également.
Voilà une info. Qu'est-ce que tu avais d'autre comme info, Jean?
On a eu la dernière manche du trophée des écoles de vélo à Luc.
Organisé par Rodez.
Après, nous avions à Castelmourou le championnat de l'Haute-Garonne pour les cadets minimes, je crois. Et après, prélicenciés, les écoles de vélo.
Il y avait le Tour des Alpes d'Haute-Provence. Au classement général, Nicolas Châtelet prend la 8e place.
C'est ça.
Remporté par Aden Van Engelen.
Oui.
Et Valentin Diaz, Mutuelle Santé, un petit jeune que j'avais vu chez les cadets ici, qui marche très très fort.
Diaz qui est parti à Mutuelle Santé cette année et qui sera un garçon à suivre dans l'avenir aussi. Chez les jeunes, puisque je me penche toujours sur les jeunes, j'aime bien.
Il y avait la classique Vienne Futuroscope, remportée par Odd Bianic, devant Maëva Paré-Peintre et Fanny Ribeiro. On avait une représentante plus ou moins régionale, Emmanuel Suiris, Emilia Mazan, Emeline Azam, Lili Minnoz, etc. Donc voilà, pas mal de courses ces week-ends-ci.
Et les minimes cadettes, qui étaient aussi dans les minimes cadettes, il y avait
Benjamin, des cyclos aussi, c'est ça, toi tu fais des cyclos?
Et la semaine prochaine, samedi, l'Ariégeoise, la grosse épreuve de la région, avec 5000 participants.
5000,
en comptant tous les. Ils avaient fixé à 5000
l'arrêt.
Pour
l'engagement.
Oui.
Tu calcules?
Il y a un maillot après, non?
Ouais, maillot, repas.
En tout cas, beaucoup de monde, encore une
avec
fois.
Avec des gros parcours dont on avait parlé cet hiver, la LXXL qui est une équivalente des étapes du Tour de France. Et même l'Ariégeoise ou la Montagnole seront très dures avec plus de 120 km à chaque fois et un col de hors catégorie. Pour l'une, c'est le port de Payère, pour l'autre, c'est le plateau de Baye où sera jugé l'arrivée.
Ouais, c'est encore une belle épreuve. Autre fait marquant, on finira avec la mobilisation, non pas de la CGT, mais de Benjamin et Max, hein, je crois.
Et pas que
sur Internet. Juste un dernier clin d'œil, vu que la semaine prochaine, on présente le Tour de France dans Radio Vélo, émission spéciale avec des invités. On vous le dit, exceptionnel pour la dernière de la saison. Je regardais un petit peu les compos qui tombent. C'est vrai que c'est un moment que je préfère dans l'année. C'est quand les compos du Tour de France tombent.
Sûr,
et c'est comme
sûr.
Le soir des championnats de France, quand on revenait des championnats de France à la bonne époque avec Géraldo, on regardait dans la voiture qui avait gagné dans chaque pays, on faisait les devinettes. Ça j'aimais bien, c'était
bien
la bonne
sûr,
époque.
Bien sûr.
Par rapport aux autres années, c'est les bons moments, le mois de juin.
Je trouve qu'il y a plus de sections qui sont annoncées, les 9 coureurs oui, avant les championnats.
Exactement.
Par exemple, la France
de plus en plus.
La FDJ, j'étais surpris parce que je pensais qu'il garderait une ou deux places.
Mais il faut garder une ou deux places. Si le mec est champion de France, tu dois le prendre. Enfin, à chaque fois, ça pose problème.
Ou même, c'est ou même un gars qui fait
garde une place
10,
et ça motive l'équipe. Ouais. Ça te motive tes 20, 25 mois.
AG2R le fait. Fortuné le fait.
Voilà.
Je pense qu'il y en a d'autres, mais après, pour les grosses,
oui,
peut-être pour les grosses.
Fortuné le fait. Fortuné le fait. Oui. Ils ont annoncé 6-7 coureurs.
6.
Tu as compté, c'est sûr. FDJ, oui, Direct Energy, Bernardo, il fera pas le coup. Cofidis, ils vont annoncer sûrement ces 6 gars.
Il doit y en avoir déjà tout autour de Boigny. Et après, pour les autres, ça va se décider sur les performances. En plus, c'est un circuit dur, donc pour ceux qui ne seront pas dans la carte de Boigny, mais qui pourront jouer les étapes accidentées, c'est un très bon championnat pour savoir la section. Pour Direct Energy, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 qui étaient confirmés, Cocard, Vauclair, Chavanel, Sicard. Et après, il doit en rester 4 ou 5, peut-être un peu moins 5, parce qu'il y a ce qu'on sait et ce que l'équipe sait également.
Il y a le off aussi. Il y a les présélectionnés après qui seront confirmés en fonction des championnats.
D'ailleurs, depuis quelques années, les équipes sont tenues de fournir entre 13 et 15 coureurs, je crois. Dans les présélections, c'est en mars ou en avril, des coureurs qui peuvent participer au Tour de France. Bon, ça doit être pareil pour les autres grands tours d'ailleurs. Et les coureurs qui ne sont pas dans cette présélection ne peuvent pas participer. On ne peut pas les prendre ensuite. Je crois que c'était par rapport au suivi antidopage.
Le passeport sanguin, oui.
Et par exemple, j'invente un coureur qui serait dans une équipe qui marche du feu de Dieu. Non, pas moi, mais genre Pierre Latour l'an dernier pour AG2R. Oui. Je ne crois pas qu'il était dans la section. Donc même s'il avait gagné la route de chute devant Contador et Quintana, il n'aurait pas pu être pris pour le Tour de France.
Voilà, d'ailleurs, je tiens à présenter mes excuses à Pierre Latour, qui s'appelle bien Pierre Latour, et dans mon euphorie la semaine dernière, je l'ai encore appelé comme il ne fallait pas.
Pierre Roger, mais c'est comme Blaise Cadry qui est appelé Biel sur plusieurs sites.
Il suffit d'aller le voir, là, il n'est pas loin, Blaise. Bon, on termine cette émission avec un hashtag.
Exactement, Bélou sur le Tour. Alors, c'est une idée de Max Massat. Tony Padova avait également eu l'idée et je l'avais également eu. Il reste 3 places chez Fortuneo et parmi c'est les coureurs concernés pour une sélection possible pour le Tour de France, il y a Julien Loubet, dit Bélou, d'où le hashtag. Julien Loubet, on le soutient déjà parce que c'est un super coureur de chez nous. C'est quelqu'un qui représente très bien la région. Il a été dans la plupart des DN puisqu'il était à Saint-Gaudens qui fait partie d'Entente Peinet maintenant. Il a couru pour Blagnac, il a couru pour Montauban. Il a pas couru pour l'Occitane, mais bon, je crois que tout le monde à la région le connaît, l'apprécie parce que c'est quelqu'un de bien. Et également parce que dans sa première carrière chez AG2R, en 2008, 2009, 2010, il est pas passé loin de la sélection. Vraiment pas loin, et je crois qu'il mérite de découvrir le Tour de France à 30 ans. On a pu voir sur la route de chute, sur l'étape de montagne, malheureusement, c'est des conditions qu'il apprécie pas du tout. Il était congelé, le pauvre, mais sur la dernière étape, on a pu voir qu'il avait quand même de la force, vu comment il s'extirpe du peloton dans la dernière côte, puisque personne n'a pu le suivre. Même Quintana, qui était dans sa roue, ne l'a pas accroché. Donc, d'ailleurs, petit truc sympa, c'était dans la dernière côte, avec Chetou qui attaque, Quintana dans sa roue, avec Paché d'un côté et Loubet de l'autre. Il y avait vraiment les régionaux qui entouraient le Colombien. Bref, tout ça pour dire, dans le hashtag sur Twitter, Bélou sur le Tour, et il y a également une page Facebook pour le soutenir. Alors, est-ce que ça servira ou pas? On ne sait pas, mais au moins, on veut montrer à Fortuneo et à Julien qu'il y a du monde derrière lui et beaucoup de monde qui aimerait le voir sur le Tour.
Comment réagit l'intéressé à l'initiative?
Ça lui fait plaisir.
Bon, allez, Radio Vélo soutient également ses tweets, là, ça y est. La team Radio Vélo soutient l'initiative du hashtag Belou sur le Tour pour la présence de Julien Loubet sur le Tour et l'équipe Fortuneo Vital Concept.
Bruno qui nous tweet, Julien Simon a annoncé ne pas être assez remis pour le Tour.
Oui, qui ne sera pas au Tour avec Cofidis. Les infos viendront dans les prochaines semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour présenter le Tour, peut-être avec le champion de France. On essaiera de vous l'avoir également dans la prochaine émission. Bref, gros programme, de quoi bûcher jusqu'à la semaine prochaine, de lancer des bons petits débats sur ton forum.
De toute façon, là, il y a le Tour de France qui arrive. Les championnats nationaux juste avant.
Ça va chauffer.
Il n'y a même pas besoin de lancer quelque chose. C'est enflammé, là. C'est parti.
Le podcast dès la fin de soirée sur CETA Radio. Le programme continue avec vos émissions habituelles, que ce soit les émissions avec notre ami, notamment Qu'est-ce que t'écoutes dans ta bagnole, et puis également l'émission de notre ami Ludo, le plus sympa des Clermontois. À très bientôt sur CETA Radio et à la semaine prochaine dans Radio Vélo.
Ciao, bonsoir.